Monsieur Aristide Briand-Henri Boisse, bonjour.
Bonjour, monsieur Armando.
L'opposition démocratique se félicite de la tenue de sa marche pacifique malgré son interdiction par votre gouvernement. N'est-ce pas là une réussite?
Non, c'est un échec cuisant. Déjà par là, l'opposition a démontré qu'il y a eu triomphe de l'incivisme et de la rébellion. Et c'est là qui témoigne le point commun entre la rébellion armée et la rébellion pratiquée par l'opposition soi-disant démocratique, c'est-à-dire le refus de l'autorité de l'État. C'est tout ce que la conscience nationale et collective peut retenir.
Oui, mais puisque vous l'avez interdit, et pourtant on vous voit ces derniers temps avec le président de la République au rond-point ici au centre-ville de Bangui pour manifester, pourquoi interdire à l'opposition de manifester ou de faire des meetings?
Nous avons écrit et demandé, nous avons annoncé la mobilisation pour une raison bien comprise. Malheureusement, les acteurs de l'opposition possèdent toujours des objectifs cachés qui se profilent derrière les prétendues actions politiques. Et donc, nous avons raison et des éléments d'information capables de douter de la sincérité et de la démarche. Voilà pourquoi il y a eu l'interdiction. Mais malheureusement, ça ne nous a pas surpris. Nous avons refusé que les civils portent des armes et mènent des rébellions contre le pouvoir central. C'est ce qui se fait avec CPC. Nous avons refusé que les manifestations interdites soient aussi respectées. Malheureusement, c'est ce que nous constatons sur le BDRC.
Et donc pour vous, vous ne voyez pas que le gouvernement est en train de museler, de bâillonner, comme a dit l'opposition. À chaque fois, si l'opposition voulait manifester, vous dites non.
Non, je pense pas. Pour l'opposition, c'est même célébrer la journée internationale de la liberté d'action politique. Parce que en fait, on est dans un pays où il n'y a aucun prisonnier politique. Les délits de presse ont été dépénalisés. Il y a plein de choses.
Et donc, selon votre dire et selon l'action du gouvernement, vous donnez raison au BRDC qui parle d'une dérive totalitaire du gouvernement lorsqu'il voulait organiser des manifestations et que vous dites non.
Il n'y a pas eu de dérive. Donc, je ne marcherai pas sur ce terrain. Il n'y a pas eu de dérive. La loi s'est appliquée en fonction des informations que le ministère, effectivement, la sécurité de la défense disposait, vu les objectifs cachés qui se profilent derrière de telles mobilisations, parce que nous connaissons les acteurs, leur histoire est liée au désastre, au malheur du peuple centrafricain, donc ils sont bien connus.
Monsieur Reboise, l'opposition qualifie votre projet de la nouvelle constitution d'escroquerie politique. Le fond et la forme sont sujettes à caution. Le président de la République et ses partisans attendent-ils liquider le pays, comme disent l'opposition et la société civile?
Je ne marcherai pas sur ce terrain, tout simplement parce que je sais que ces réformes constitutionnelles constituent une révolution. Dans notre État, il appartient à ceux qui gouvernent de mesurer la portée des enjeux politiques modernes et d'adapter les mécanismes de l'administration à la hauteur de ces enjeux.
Ce projet aussi disqualifie les binationaux de la course à la magistrature suprême de l'État, c'est-à-dire la présidentielle, alors que le feu empereur Bokassa, considéré comme l'unique bâtisseur de la République centrafricaine, était lui aussi un binational. Est-ce que cet argument du pouvoir sur la question d'intérêt national tient la route?
Je pense qu'en 1961, il y avait déjà eu, dans le code des nationalités, la loi avait déjà interdit. Bokassa n'est pas arrivé au pouvoir par les élections. Il est arrivé par le coup d'État. Et donc ça, ce n'est pas un exemple effectivement à suivre. Il est venu par le coup d'État, étant détenteur de double nationalité. Il avait même dit clairement qu'il était à la fois l'empereur français et l'empereur centrafricain.
Il s'est lu le bâtisseur de ce pays.
Alors bâtir un pays, c'est une exonération pour commettre des délits ou pour violer la loi? Non.
Pourquoi aujourd'hui on parle de binationalité dans cette nouvelle constitution à venir?
Je vous ai déjà fait l'historique. En 1961, ces questions existaient bien, bel et bien dans la loi. Et en 1995, quand il y a eu réforme constitutionnelle où le premier ministre à l'époque était Ziguélé ou autre, je ne sais pas, mais cette question a été portée et il n'a pas contesté. Et donc, je ne vois pas pourquoi lui, aujourd'hui, peut oser contester, parce que sinon, ce serait une contre-nature.
Mais quel est le mal lorsqu'un binational va diriger le pays comme président de la République, selon vous?
Tu ne peux pas être à la fois citoyen et président d'un autre pays. En République centrafricaine, quand on est président d'un seul pays, d'un seul peuple. On doit s'identifier. L'identité de notre pays commence déjà par ce caractéristique. Maintenant, il faudrait que je vous remette. Vous savez que mon père est français. Ziguélé est né français. Mon père aussi est né français. Il y a des gens qui ont renoncé à être français.
Et même le président de la République aussi.
Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont renoncé. Aujourd'hui, le président de la République a renoncé. On est tous des enfants des Français. Vous voyez, mais à un moment donné, il faut faire un choix et savoir où on va. On ne peut pas poursuivre deux leviers rapports. On ne peut pas être détenteur de citoyenneté de deux pays et être capable même d'être un chef de village en France et de prétendre toujours être président de la République centrafricaine. C'est fini ça.
On peut vous dire que vous êtes d'origine centrafricaine. Est-ce que ça peut poser un problème?
Non, ça pose aucun problème. Mais à un moment donné, je pense que le président de la République est une fonction sacrée. Il doit être centrafricain complètement. Et donc, il ne doit pas avoir un conflit d'intérêts, même dans sa pensée, dans sa manière de faire les choses.
Les ministres peuvent être des binationaux, les députés, etc., mais pas le président de la République. Non. Ne voyez-vous pas ce paradoxe?
Tous ceux qui contestent aujourd'hui, y compris moi, en 2016, nous avons tenu une réunion à Paris avec même ceux-là qui ont contesté. Nous avons mentionné les mêmes choses. Dans la Constitution, par exemple, moi je suis le ministre de la Jeunesse et je pense que l'article 36 de la Constitution, on fait prétendre que à cet âge-là, tu ne peux pas être candidat aux élections présidentielles. Et donc, on te dit clairement qu'il fallait développer le culte de la culture de guerre, c'est-à-dire le réflexe de rébellion pour, comme seul moyen de conquérir le pouvoir et non par la démocratie. Ça a été corrigé. Pour moi, c'est ce que j'applaudis et je salue.
Mais oui, on n'a pas parlé de modification de la constitution actuelle, mais du changement de la constitution. Ça veut dire que la constitution de 2016, lorsque ce projet de la nouvelle constitution serait le 30 juillet voté à majorité, cette constitution actuelle n'existerait plus.
C'est la réécriture de la constitution qui donnera une nouvelle constitution qui permettra d'avoir des outils nécessaires pour adapter aux nouveaux enjeux que nous avons. Par méconnaissance, les gens qualifient la tokenisation de vente par morceaux de pays. Non, c'est une révolution. Personne ne peut remettre en cause, y compris M. Zigele, qui n'a rien fait pour ce pays.
Le projet de la nouvelle constitution fait sauter le verrou de la limitation de mandat, aussi de quinquennat au septennat. Voudrez-vous faire de Faustin Archange Touadéra président à vie, comme dit l'opposition?
Les hommes passent, les pays et les institutions restent. Je ne parlerai pas de Touadéra. D'ailleurs, un, c'est pas lui qui est détenteur de cette mobilisation pour la nouvelle constitution. Il est étranger à cela.
Mais s'il dit non, ça ne peut pas avoir lieu. Vous
non, le problème, c'est qu'il ne peut pas dire non. Donc, vous voulez qu'il conteste le peuple souverain? Il y a eu des procédures
donc,
à la base.
Ça veut dire qu'il y a eu la volonté jeunesse du président de la République.
Non, il y a eu la volonté de la jeunesse. Et je peux vous dire, c'est depuis 2018 qu'il y a eu cette volonté de la jeunesse. Je n'étais pas encore ministre, j'ai participé. Et c'était à Gbangouma, au 7e arrondissement, qu'il y a eu cette volonté de modification de constitution par les jeunes.
Monsieur Rebois, candidat à la présidentielle de 2021, aujourd'hui, vous soutenez la réécriture, selon votre terme, de la nouvelle constitution, le verrou de mandat présidentiel sauté. Est-ce que vous avez perdu l'ambition de devenir président de la République?
Au contraire, je gère le pouvoir actuel. Je ne suis pas égoïste. Je suis rentré en politique pour changer les choses.
Changer les choses?
Pour changer les choses.
Permettre au président de la République de rester 3, 4, 5 mandat?
Vous parlez parce que de le verrou est sauté. De toutes les façons, ça, vous ne pouvez pas m'atteindre. Le pouvoir appartient à Dieu, il donne à qui il veut. Chaque chose à son temps.
Une partie de l'opposition et de la société civile parle de liquidation du pays si, et seulement si, le 8 remporte. Pourquoi ce projet de la nouvelle constitution renforce beaucoup plus le pouvoir du président de la République?
Je ne vois pas ceux qui ont accompagné l'effondrement des institutions en République centrafricaine par de multiples coups d'État, qui ont accepté des régimes dictatoriaux, qui ont tué au moins 30 000 centrafricains, qui ont amené des Bayamoulingues, qui ont violé, tué, aujourd'hui se permettent de se comporter en donneur de leçons de morale. Pour ceux aujourd'hui qui s'attellent à réformer dans le cadre pacifique les institutions pour créer un avenir meilleur à la jeunesse centrafricaine.
Monsieur Aristide Briand-Rebois, merci.
Merci beaucoup.